Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu et je pense que Dieu veut nous parler ce matin. En tout cas, moi, j'ai été encouragé ce matin puisque les deux dons spirituels, notamment le premier là de notre frère, va dans le même sens. Pourtant, on ne sait pas parler, mais Dieu, on a le même esprit et voilà, on va parler un peu de zèle et de savoir être des personnes et des temples du Saint-Esprit bien vivants ce matin. C'est un sujet où je ne savais pas quoi prêcher ce matin. C'est arrivé il y a une semaine. Pour moi, une semaine, c'est tard. Pour moi. Mais tout s'est déroulé assez rapidement. Et ce matin, c'est venu conforter. Et merci Seigneur pour sa parole et le fait qu'il soit là bien vivant parmi nous. On a chanté des chants ce matin où on a proclamé des attributs de Dieu. Il y a quelques minutes, vous vous rappelez quand même, hein? À moins que vous vous rappelez plus, vous j'ai chanté n'importe quoi. Et du coup, prochaine fois, on met des paroles n'importe quoi, puis on verra si vous comprenez. Qu'est-ce qu'on a chanté ce matin? Dieu est grand, ouais. Oui, c'est le tout dernier, ça. Et sans limite, ouais. Ouais, il y avait la confiance, ouais, ouais. Maintenant, si je vous demande, au-delà de tous ces chants, de décrire qui Dieu est pour vous. Un mot ou plusieurs mots, hein. Il y a plusieurs mots qui peuvent définir. Amour, ouais. Ça c'est le premier. Amour. Autre chose? Éducateur, ouais, la paix. Sauveur, trésor précieux. Ouais, c'est bien tout ça. Alors, tout ça, ça vient rejoindre, on ne l'invente pas puisque on la retrouve dans la Bible, notamment dans le Nouveau Testament. Le Testament où les apôtres vont beaucoup parler de qui est Dieu et même dans l'Ancien. Dieu va se manifester, va se révéler, et on connaît notamment voilà des termes hébreux. Alors El Shaddai, c'est Dieu puissant. Jéhovah Jiré, Dieu pourvoit. Celui-là on aime bien. Dieu pourvoit. On l'aime peut-être même mieux que le reste. Dieu amour c'est bien, mais Dieu pourvoit c'est quand même bien. Hein. C'est mieux en tout cas. Jéhovah Rapha, Dieu qui guérit. Adonai Shalom. Dieu de paix, on l'a dit tout à l'heure. El Ranoun, ça c'est moins courant. Dieu plein de grâce. Dieu compatissant qui fait grâce. On chante tout cela dans nos chants. Alors voilà, là c'est les termes hébreux hein, directement, même s'ils sont connus. Mais on le chante dans nos chants. Mais est-ce que vous seriez prêt ce matin à louer El Cana? Celui-là on le chante moins, on le chante même pas du tout. El Cana, est-ce que vous savez ce que ça veut dire El Cana? C'est le Dieu jaloux. Et ce matin, on va parler du Dieu jaloux, puisque dans tous ces termes-là, Elkana, il arrive dans le même ordre que El Shaddai, El Jéhovah Jiré. Dieu se présente aussi comme le Dieu qui est jaloux. Mais est-ce qu'on a déjà entendu un chant de louange sur la jalousie de Dieu? Seigneur, je te loue pour ta jalousie ce matin. Que ta jalousie est extraordinaire pour ma vie et formidable. Moi, j'ai jamais entendu de chant qui chante ça. Hein. Pourtant, c'est biblique, hein. Mais on chante pas trop. On le proclame même pas, en fait. Hein. C'est. Tu es un Dieu merveilleusement jaloux. Tous les matins, Seigneur, je célèbre ta jalousie. On pourrait, hein. Moi, j'ai jamais entendu de chant qui parlait de cela. Mais pourquoi? Parce que ça nous met mal à l'aise. Puisque le terme jalousie ici, il est quand même bien chargé. Quand on dit de quelqu'un qu'il est jaloux, c'est pas une qualité. Hein. Pourtant, Dieu se définit comme jaloux. Et il va dire, voilà, que il va le répéter. Parce qu'on pourrait se dire et se sortir de ça en se disant, peut-être un texte qui en parle. Mais non, non, non. Durant tout l'Ancien Testament, et même à travers le Nouveau, Dieu va se rappeler, puisque même le Nouveau Testament, Paul va dire à un moment aux Éphésiens que, voilà, s'ils mettent pas leur vie en règle devant le Seigneur, c'est la jalousie de Dieu. Qui les rattrapera? Ça va loin. On le lit pas trop, ce verset. On lit un peu avant, un peu après. Et durant toute la Bible, du coup, Dieu parle et se présente comme cela. Ça fait partie des caractéristiques de Dieu, même si c'est difficile à dire. Là, en parlant, c'est difficile à dire. Un Dieu qui est jaloux. Alors, la différence qu'il y a avec les autres caractéristiques, c'est que c'est plutôt positif. El Shaddai, Dieu puissant, Dieu qui pourvoit. Et du coup, on a l'impression que Dieu jaloux, c'est plutôt négatif. et que ça élève moins Dieu. Mais la jalousie, ici, en tout cas pour nous, êtres humains, et c'est la distinction qu'il y a à faire, c'est quelque chose de négatif. Vous êtes d'accord? Quand on dit quelqu'un qu'il est jaloux, c'est que du coup, il y a quelque chose un peu de sournois, de destructeur pour les êtres humains, et c'est pas une qualité. Pourtant, Dieu va dire de lui-même, c'est Dieu qui parle, à chaque fois, et va se présenter comme un Dieu jaloux, et à plusieurs endroits de la Bible. Notamment dans Exode, et je vous invite du coup à ouvrir la parole, Exode chapitre 20, et à partir du verset 1 à 5, c'est mon court verset, plutôt verset 5 même, verset peut-être que vous connaissez sans doute, Exode chapitre 20, verset 5. Le peuple vient de sortir de l'Égypte. Dieu les a libérés du pouvoir du Pharaon, et il va dire ceci, le Seigneur, « Tu ne te prosterneras pas devant les idoles, tu ne les serviras pas, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Et l'un des thèmes du livre de l'Exode, alors c'est pas le seul thème, mais c'est un des thèmes fondamentaux du livre de l'Exode, c'est la révélation du nom de Dieu. Durant tout le livre de l'Exode, Dieu se présente. Il a libéré son peuple, maintenant le peuple a besoin de savoir qui l'a libéré. Et du coup, Dieu va se présenter. Et il va se présenter au début comme, voilà, il va dire « Je suis un Dieu plein de compassion », c'est Exode 3, « plein de compassion, plein de grâce, lent à se mettre en colère, riche en amour, en fidélité. » Il va dire aussi « Je suis l'Éternel, je n'ai ni commencement ni fin. » Dieu se révèle au peuple. Et dans la foulée, c'est pas la fin, Dieu va dire que c'est aussi un Dieu jaloux. Et on va retrouver même plus loin, une répétition de cela au verset 14, Exode 34, verset 14. « Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. » C'est dur quand même à lire ce verset. Il est un Dieu jaloux. Pourtant, Dieu nous dit qu'il est clairement saint. Durant toute sa parole, Dieu est saint. Vous êtes d'accord avec moi? Il est moralement parfait et ne peut pas être tenté par le mal. Du coup, encore moins par la jalousie, comme on l'entend. Alors du coup, comment on peut comprendre cela? Dire que Dieu est jaloux. Comment cela peut être une vertu pour Dieu et un défaut pour les hommes? Est-ce que c'est « faites ce que je dis et pas ce que je suis, pas ce que je fais » Non, c'est pas ça. Et du coup, il y a peut-être une autre, ici, interprétation à avoir. Alors, l'interprétation, elle est assez simple. Il faut ouvrir le dictionnaire. Et sur le mot jalousie, il y a deux définitions. La première définition, c'est celle que nous connaissons le mieux de la jalousie. Et on va s'attarder un peu sur cette première définition, qui définit la jalousie comme ça. « Je désire ce que tu as et je te hais parce que je ne le possède pas. » C'est la première définition de la jalousie. C'est commence par une animosité qui naît de la convoitise, une convoitise qu'on nourrit. Cette convoitise, elle peut arriver à tout le monde. La différence avec la jalousie, c'est qu'on la nourrit. Et du coup, on la nourrit, elle va s'installer, elle va s'enraciner et elle va se manifester du coup par l'envie, la mesquinerie, la méchanceté et tout le cortège de péchés qui va suivre. Puisque du coup, jalousie, il y a beaucoup de choses. Ça peut aller jusqu'au meurtre. Et dans la parole, on va en voir des cas. Et cette jalousie, du coup, elle est puissante. Elle se nourrit de notre orgueil et elle nourrit notre orgueil aussi. Il y a un lien avec l'orgueil. Elle est capable de détruire complètement un homme et une femme de l'intérieur, de brûler, de le consumer. Capable de le ronger au fil du temps. Et dans le livre des Proverbes, on aura ce verset qui montre quelque chose quand même, que Dieu va dire « La fureur est cruelle et la colère impétueuse. » Mais qui résistera devant la jalousie? Devant le Seigneur, tous les péchés, un péché reste un péché. Mais la colère, pour Dieu, c'est même moins grave que la jalousie. Parce qu'elle est plus insinueuse, la jalousie. Elle touche à l'ego. À un ego, du coup, et l'être humain, l'ego, on peut vite monter. C'est le premier péché, d'ailleurs, que le diable, d'ailleurs, lui, va faire. Premier péché, d'ailleurs, qui va entraîner, qui va démarrer par de la jalousie. Satan, il commence comment? Il veut être Dieu. De la jalousie, on nourrit l'ego, et du coup, on tombe dans le péché. Le péché rentre. J'ai lu une fable. Alors, c'est une fable, c'est pas une histoire vraie. Vous allez comprendre, d'ailleurs, très vite pourquoi c'est pas vrai. C'est l'histoire d'un aigle qui enviait un autre aigle. parce que son ami Aigle volait plus vite que lui. Il faisait des courses et à chaque fois, il le battait. Du coup, il commençait un peu à être jaloux et il voulait être comme lui, voler aussi vite que lui. Et du coup, il a commencé à développer une jalousie forte, une envie d'être pareil que lui. Et un jour, il a vu un chasseur qui avait un arc. Il s'est rapproché de lui et il lui a demandé « Est-ce que t'es un bon chasseur ?» Alors oui, les animaux parlent, hein, c'est une fable. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas la vérité. Hein, c'est une fable. Donc il va lui demander « Est-ce que t'es un bon chasseur ?» Et le chasseur va lui répondre « Oui, ça va, je me débrouille. » Et du coup, il va dire « Est-ce que tu serais capable d'abattre cet aigle-là qui vole ?» Il va dire « Oui, c'est faisable, je pense que je peux le faire. » Donc il va dire « Bah ok, vas-y, fais-le. » Et le chasseur qui va lui dire « Mais j'ai plus de flèches, j'ai tout utilisé. » Et donc il va lui dire « Bah il te manque quoi alors ? Qu'est-ce qui te manque ?» Il va lui dire le chasseur « Voilà, j'ai du bois pour faire le corps de la flèche, mais il me manque des plumes pour faire l'empennage. Et s'il n'y a pas d'empennage, ça volera pas. Et je pourrai pas tuer l'aigle qui vole. » Et du coup, qu'est-ce qu'il fait l'aigle ? Il va lui passer une plume. Coup de chance, il en a sur lui. Il lui en passe une. Le chasseur prend et tire et il rate. C'est pas si bon que ça finalement. Il rate son tir et du coup l'aigle va lui en redonner une autre. Parce qu'il est jaloux, il veut quand même que cet aigle qui vole, il tombe. Alors vous voyez un peu la suite, le chasseur va encore rater et l'aigle va encore lui redonner des plumes. Et ainsi de suite. À la fin, le chasseur s'aperçoit que l'aigle n'a plus de plumes. Il est vraiment très mauvais ce chasseur, hein, mais bon, ça c'est une autre histoire. Il a plus de plumes et le chasseur se dit « Mais j'ai un bon gibier là, déjà déplumé. » Il prend la dernière flèche et il achève l'aigle déplumé qui ne peut pas voler. Ce que fait la jalousie, elle consume les êtres de l'intérieur, sans se rendre compte. Sans se rendre compte, on laisse la place à l'ennemi qui à la fin nous saisit. La jalousie, il faut savoir la couper dès qu'elle naît. Elle naît de la convoitise, et c'est pas laisser la convoitise grandir. Qui est de la convoitise, ça arrive à tout le monde. Celui qui ne convoite pas, c'est un menteur. Mais ce n'est pas la nourrir. La nourrir avec l'orgueil. Cette histoire nous rappelle qu'avant de faire d'autres victimes, ce type de jalousie ronge et tue petit à petit, et la première victime, c'est celui qui est jaloux. Qui va tuer, il va se tuer lui-même, mais il va aussi tuer tous ceux qu'il touche. Tous ceux à qui il peut parler, tout son entourage. Les plus sages vont s'éloigner de ces personnes. Mais malheureusement, des fois, quand c'est même dans la famille, c'est plus compliqué. Mais des fois, il vaut mieux que de tomber tous ensemble. Alors, c'est pas de cette jalousie dont Dieu est animé. C'est pas de cette jalousie, en tout cas, que Dieu ici se présente quand il dit qu'il est jaloux. C'est pas la jalousie ici fruit du péché et de l'orgueil. C'est pas cette première définition. Pour nous, en tout cas, s'il s'agit de la ressentir, comme je le disais, si pour nous, en tout cas ce matin, si vous ressentez ici de la jalousie envers quelqu'un, il s'agit ici de pas se mentir. Et de se dire, voilà, je rappelle, hein, jalousie c'est le premier des péchés. Satan, c'est la première chose, la jalousie qui fait qu'il va vouloir être comme Dieu. Et ici, il s'agit de passer par la case repentance, dire « Seigneur, je me repens devant toi. Je suis un être bien fragile, oui, j'ai de la convoitise, et des fois même, je vais plus loin. Je suis jaloux de ce que l'autre est, ou ce qu'il veut, ou ce qu'il a, mais moi, je veux être en toi. Tu me connais parfaitement, je n'ai besoin de rien d'autre. » Et ce matin, je vous invite, voilà, c'est une parenthèse, mais du coup, à déposer tout cela aux pieds du Seigneur. Puisque le Seigneur ne tolère pas ce genre d'attitude, ce n'est pas une attitude qui va dans les fruits de l'esprit. Hein. Vous avez bien compris, c'est même l'opposé là. Alors quand on dit que Dieu est jaloux, c'est pas du tout cela, et c'est plutôt peut-être la deuxième définition que l'on trouve dans le dictionnaire, qui va dire ceci... de la jalousie, une ardeur extrême à protéger une relation d'amour exclusive. Et ça rentre plus dans comment Dieu se définit quand il dit qu'il est jaloux. On retrouve par exemple cette définition, une ardeur extrême à protéger une relation d'amour exclusive, dans quel cas ? Dans le mariage. C'est qui l'a dit? Ah oui, c'est Jean-David. Jean-David, du coup, ça va, il le vit bien. Les autres, je sais pas, j'ai l'impression que vous vous découvrez. J'espère que vous, ça va, c'est dans le mariage. Bon, j'espère pour vous, en tout cas, que vous vivez ça, hein, que c'est pas juste, on est mariés, mais en fait, chacun fait sa vie. La jalousie, ici, positive, comme Dieu se présente, elle est valable dans le cadre du mariage, une relation exclusive à deux. Alors, voilà, je précise le cadre du mariage, voilà, homme-femme, relation exclusive. On parle pas ici de troupe ou de trois personnes, ou je sais pas quoi, aujourd'hui, dans le monde, plein de choses qui se passent, on parle pas du tout de ça. Voilà, je remets dans le contexte ici, relation d'amour exclusive entre deux personnes, mari et femme. L'amour entre deux époux. Quelque chose d'ailleurs qui va venir, cette jalousie positive, s'installer au fil de la relation. Parce que l'amour va porter l'un comme l'autre. Alors ici, je ne parle pas, voilà, avant de continuer, je ne parle pas de jalousie maladive. Hein. Attention, je ne parle pas de ce poison des fois qui est là dans le couple, ou de la jalousie obsessionnelle, où l'un, ou peut-être même des fois les deux, veulent contrôler l'autre, veulent tout savoir de l'autre, veulent garder son conjoint un peu sous son emprise et le contrôler. C'est pas de ça que je parle. Ça, c'est encore une autre dérive. On pourrait parler plein de dérives ce matin, mais bon, je vais pas m'attarder. Vous savez, quand je parle d'amour exclusif, de jalousie c'est pas de ça. Hein. Ça, c'est encore autre chose. Il y a une jalousie ici qui est surtout la protection de l'amour que l'on a choisi de vivre avec l'autre personne. Qui naît d'un amour vrai, un amour sincère entre deux époux, et qui cherche à protéger une relation d'amour unique et exclusive. Je vais prendre mon cas, parce que je ne sais pas pour vous, je vais prendre le cas de Jean-David du coup, avec Géna, mais je vais parler de moi. Moi, je suis un privilégié, parce que Eliette, elle m'aime, et l'amour qu'elle me porte, elle le porte comme ça qu'avec moi. Uniquement qu'avec moi. Et moi, c'est pareil avec elle. C'est exclusif. C'est pas avec quelqu'un d'autre, c'est différent. Non, c'est très exclusif. Et ça, moi j'y veille, et elle y veille aussi. Il y a un équilibre ici que l'on trouve. Je prends un exemple. Si vous êtes messieurs, par exemple, au restaurant, vous avez invité votre femme, votre fiancée, votre copine, non, peu importe, celle que vous aimez. On vous a réservé une belle table. Voilà, il y a une chandelle, des belles fleurs, il y a un cadre magnifique. Allez, devant la Loire en plus. Allez, je vous présente le décor. Un cadre idéal, quoi. Alors, je vous encourage à le faire, messieurs. Si vous le faites pas, faites-le. Pas que des mots. Faites-le. Mais bon, je ferme la parenthèse. Voilà. Vous allez commencer à prendre les entrées, à commencer à manger. Et puis là, un monsieur débarque. Que vous ne connaissez pas. Il arrive, il prend une chaise. Il s'assoit à votre table. Il vous ignore complètement. Et il commence à faire la cour à votre épouse. Comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous faites? Certains me diraient, parce que voilà, j'avance un peu les propos, parce que certains me diraient, certains frères peut-être vous me direz, mais elle peut se débrouiller toute seule, j'ai envie de voir ça. Et je la connais, il n'y a pas de souci, il a intérêt à bien se tenir l'autre. Mais d'accord, c'est peut-être possible, hein. C'est vrai, elle peut se débrouiller, elle peut se défendre toute seule, mais elle vous reprochera, et a raison, de n'avoir rien fait pour la défendre. De n'avoir rien fait pour défendre, c'est pas que sa personne, mais la relation exclusive qui vous lie. C'est-à-dire que quelque part, l'amour qu'il vous lie, bon, il est fragile, hein. C'est un peu du perso. Quel amour ici je porte? Et ici, c'est cette bonne jalousie qui doit nous saisir. La jalousie de Dieu, c'est cela. C'est de cette jalousie que Dieu parle. Pourquoi dans le couple c'est comme ça? Et parce qu'il est anormal de laisser faire ce prétendant. Pourquoi? Parce que même s'il n'y arrive pas, c'est pas la question. C'est que quelqu'un ici essaye d'abîmer une relation d'amour exclusif. Et ça, on ne peut pas le laisser passer. C'est la raison principale. La question, c'est pas s'il va y arriver ou pas. C'est pas ça la question. C'est que quand quelqu'un essaye d'abîmer ça, c'est savoir reprendre, protéger. C'est pas protéger le conjoint, c'est protéger la relation. Se dire, cette relation-là, elle est précieuse. Du coup, ce qui est précieux, même si ça va pas s'abîmer, je la protège, cette relation. Ça va, vous me saisissez? Bon, il y a plusieurs leçons pour vous, alors si vous le faites pas, voilà, vous avez des conseils, vous savez quoi faire. En tout cas, voilà, l'image du couple ici symbolise bien l'amour voilà, du Dieu jaloux. Et cet amour-là, finalement, qui est très lié à l'amour, finalement. On aime l'autre de manière exclusive. Et du coup, il y a une jalousie saine qui naît. Qui fera que l'un et les deux conjoints feront tout pour préserver cette relation exclusive et ne permettront à personne d'autre de pouvoir y rentrer ou essayer de l'abîmer. La Bible, elle considère cette jalousie-là comme normale, naturelle, juste et bonne, même comme une vertu. Puisque c'est comme ça que Dieu se présente. Et c'est toujours comme ça qu'est présentée la jalousie de Dieu dans la Bible. Dans le cadre, et tout de suite, il y a un terme qui va venir très fort, que je ne pourrais pas développer ce matin, mais c'est Dieu fait alliance avec les hommes. C'est dans le cadre de l'alliance. Comme dans le mariage, il y a une alliance, le mariage c'est une alliance, Dieu a fait alliance avec ceux qui l'ont choisi. Il a fait alliance d'abord avec un homme, Abraham, puis avec un peuple. Un peuple aujourd'hui que nous sommes, l'Église. Et cette relation est comparée dans le livre des prophètes et dans tous les prophètes de l'Ancien Testament comme un mariage. Et les conséquences aussi, du coup, comme un mariage. C'est une alliance, du coup, très forte qui nous lie avec le Seigneur, qui implique une loyauté absolue. Et Dieu, lui, fait sa part. Il fait très bien sa part. En général, c'est pas lui le problème. Mais à chaque fois que le peuple d'Israël fait des compromis avec les dieux païens et se tourne vers les idoles, les statues de Baal, Astarté, poteau d'Akira, voilà, tous ces idoles qu'on le retrouve dans l'Ancien Testament, à chaque fois qu'ils feront cela, les prophètes viennent et qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent qu'ils sont en état d'adultère. Le mot est fort. Ils sont comme une prostituée qui va voir qui il veut. Et que Dieu ne peut pas tolérer ça. Du coup, Dieu, jaloux, va permettre, ça va aller loin, va permettre pour que le peuple réalise ici l'amour qui lui porte, du coup des épreuves. Que des peuples ennemis, qui sont en horreur aux yeux de Dieu, attaquent le peuple. Ça va aller même jusqu'à la déportation du peuple. Le Dieu jaloux se manifeste. Parce que Dieu ne peut pas laisser le peuple alors qu'il l'aime. C'est Dieu aime le peuple. Et il le reprend pour qu'il saisisse. Finalement, c'est que l'alliance qu'il a fait avec lui, avec ce peuple, eux aussi doivent rester fidèles. Pour leur bien, le bien de cette relation. À chaque fois que le peuple va rompre cette alliance, ce contrat qui les lie au Seigneur, ça va provoquer la jalousie de Dieu, la colère de Dieu. Et dans Ézéchiel, un des prophètes, on va trouver ceci, Ézéchiel 16, verset 38, « Je te condamnerai au châtiment des femmes adultères et de celles qui ont commis un meurtre. Dans la colère et la fureur de l'amour bafoué, je te ferai payer de ton sang. » Mais ici, Dieu, qu'est-ce qu'il dit ? Dans la colère et la fureur de l'amour bafoué. Ici, le Seigneur rappelle que la relation a été abîmée. Et Dieu exige que ceux qui l'aiment le fassent de tout leur cœur. Pas à moitié, de tout leur cœur. Pourquoi ? Parce que Dieu, de son côté, il a donné son Fils unique, qui en est mort. Dieu est mort à la croix. Et parce qu'il en est mort, Dieu s'est donné pour nous totalement. Et il attend du coup de nous la moindre des choses, c'est que l'on se donne complètement. Totalement. C'est pas 99%, c'est totalement. Sans compromis, sans aller voir aussi d'autres choses, un amour exclusif et passionné. Cet amour, du coup, il se décide pas. C'est pas une règle, sinon c'est pas de l'amour. Mais on doit la cultiver. En se disant, Dieu nous a aimés de manière assez forte, parce qu'il en est mort. Et du coup, nous devons l'aimer de manière passionnée, parce qu'il nous a aimés en premier. Pas un amour tiède, froid, ou pire, rempli de compromis, comme une femme ou un mari adultère. Dieu exige cela envers ceux qu'il aime, une fidélité totale et absolue. Est-ce que c'est trop demandé ? Par rapport à ce que Dieu a fait, non. Mettons-nous un instant à la place de Dieu, qui est comme un mari qui aime son épouse, l'Église, il a donné sa vie pour elle. Imaginons une relation comme cela de couple. Et du coup, l'un des conjoints ne parle jamais à l'autre. Il dit qu'il aime, dimanche matin, pendant 2 heures, Je t'aime, Seigneur, je donne toute ma vie, mais durant toute la semaine, il n'y a rien. Imaginez dans votre couple, hein, vous faites ça. Je pense que vous viendrez très vite me voir en me disant « Ouais, je comprends pas ce qui se passe. » Et là, je vous dirai « Mais attends, ce qui se passe, c'est pas compliqué, en fait. Hein. C'est que tu n'aimes pas. » Imaginons un peu ça. Imaginons que on dise « Oui, j'aime le Seigneur. » Et finalement, on passe pas le temps à le connaître. À le laisser nous parler à travers sa parole. On passe pas du temps. On ne s'intéresse pas du tout à la personne, du coup, qu'on a épousée, à qui on s'est lié. À tel point qu'on ne prend jamais de temps pour savoir ce que l'autre est. Si! Sauf quand on a besoin d'aide. Moi, je peux vous garantir que si je fais ça avec ma femme, je lui parle jamais, sauf que j'ai besoin d'aide, ça ne va pas durer très longtemps. Puis la connaissant, elle, c'est un peu un volcan, donc elle va bien garder, puis quand ça va péter, je vais en prendre plein la tête. Mais c'est normal, en fait. C'est complètement normal. Hein. Dieu, lui, est bien patient. Mais il y a des moments, le Seigneur, il dit, mais attends, stop. Là. Et Dieu est jaloux. Et nous, après, on est là, on comprend pas ce qui se passe, parce que tout va bien. Et quand ça va pas, du coup, on va crier au Seigneur. Et Dieu, lui, il attend. Ce que Dieu veut pour nous, c'était la parole ce matin, c'est que nous puissions être à 100% pour lui. Pas à 50, pas à 30, à 100%. Une vraie relation d'amour, quelque part. Ça se déclare pas, hein, ça se décide pas. Ça se vit. Imaginez que dans cette relation de couple, un des conjoints passe son temps devant la télé, l'ordinateur, ou n'importe quel autre hobby, c'est pas mauvais. Mais du coup, ne prend pas de temps pour échanger avec son conjoint, pour échanger avec le Seigneur. Ou une autre relation de couple, ça peut exister malheureusement, où l'un des conjoints s'occupe que de ses affaires. On est marié, mais chacun ses affaires. Tout ce qui concerne l'autre ne l'intéresse pas, chacun ses oignons. Il n'a qu'à se débrouiller avec ses affaires, moi avec les miennes, chacun fait sa vie. On se demande pourquoi ils sont mariés après, mais bon, ça c'est autre chose. Mais des fois avec le Seigneur, on fait ça. Hein. Quel drôle de couple ce serait, n'est-ce pas? Et dans ces conditions, l'un des deux conjoints deviendrait jaloux. Jaloux de quoi? Moi j'ai vu des couples, c'était au début, alors ça va, quand je venais de commencer, j'étais même en stage, j'étais pas encore pasteur, j'étais en stage pastoral, un couple qui était jaloux, un des conjoints était jaloux de son chat. Ils avaient un chat, ils étaient jaloux du chat, le chat était devenu un problème. Ils sont venus me voir, David, il s'appelait Rodolphe le chat, c'était un drôle de nom, alors forcément. Et du coup, le mari était jaloux du chat. Hein. Et quand on discutait, mais parce qu'en fait, l'épouse a passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avec le chat. Plus qu'avec le mari. Et quand j'ai parlé, alors voilà, j'ai rien dit devant eux, mais ça m'a fait, je me suis dit, je raconterai un jour, ça tombe bien aujourd'hui. La femme, elle était jalouse aussi, bon, elle l'avait pas dit, mais elle était jalouse de la voiture. Parce que le mari passait beaucoup de temps à la voiture. Il l'a caressée, il l'a nettoyée, il échangeait avec elle. Et il disait, s'il passait autant de temps avec la voiture qu'avec moi. Chacun était jaloux. Alors c'est positif, parce que ça veut dire qu'il s'aimait. Mais quelque chose d'autre avait pris la place. Le chat, qui était là d'ailleurs, hein, il faisait sa vie lui à ce moment-là. Et la voiture qui était en bas. Qui c'est vrai qu'elle était flambant neuve, elle était toute propre, toute... Mais ici, dans nos vies, finalement, en tant que chrétiens, qu'est-ce qui prend de la place? Qu'est-ce qui prend la place de Dieu? Ce matin, quelque part, la question, c'est qu'est-ce qui rend Dieu jaloux? Qu'est-ce qui, dans ma vie, rend Dieu jaloux? Qu'est-ce qui, dans mon emploi du temps, rend Dieu jaloux? Qu'est-ce qui occupe une grande partie de mon temps, de mes pensées, de mes sentiments, de mes émotions, de mes efforts, de mon énergie? Voilà, je vous laisse à chacun le soin d'y répondre. Je pense que la clé, elle est là-dessus. Il ne s'agit pas de tomber, du coup, dans des extrêmes, hein, mais de trouver un équilibre. Finalement, la question, c'est qui est Dieu pour nous? Si vous ne le faites pas, Dieu, lui, se chargera de vous le rappeler. comme il l'a fait avec le peuple d'Israël, il a été patient, et à un moment sa colère s'est manifestée, une colère saine, pour rappeler le peuple qui n'a pas compris au moment de la colère de Dieu, mais Dieu n'a pas lâché, hein, parce qu'il aimait le peuple. Et je pense qu'on peut éviter de passer par là, et avoir une relation à 100% avec le Seigneur. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu était jaloux, mais ce n'était pas le fait avec le peuple d'Israël qu'ils avaient abandonné le Seigneur. Ils n'avaient pas abandonné le Seigneur. Hein. Ils continuaient, vous lirez hein, les textes, ils continuaient à lui offrir des sacrifices. À aller au tabernacle, à louer, à adorer le Seigneur, ils continuaient tout cela. La seule chose, c'est qu'en fait, en parallèle, ils avaient rajouté au culte qu'ils apportaient au Seigneur d'autres dieux. Les dieux des voisins. Des peuples voisins, Baal, Astarté, Poteau d'Akhéra, pour ne pas les fâcher. Pas fâcher les voisins, pas fâcher leurs dieux, si jamais ils existent comme ça, on est protégé. Et ils continuent aussi avec le Seigneur. Et c'est pour ça que Dieu est jaloux. Et qui, du coup, il va le dire, il va rappeler le peuple, il va manifester, du coup, sa clémence, mais aussi sa colère. Dans nos vies, qui sont nos idoles? Quelles sont nos idoles? Ces choses auxquelles on sacrifie tout notre temps et notre énergie. Alors bien sûr, il n'y a plus de Baal, d'Astarté, d'idoles comme dans l'Ancien Testament. Mais dans le temple de nos vies, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, qui a-t-il à leur place? Qu'est-ce qui occupe tant de place dans ce temple que nous sommes consacrés? Alors que nous sommes consacrés à Dieu. Nous avons en tout cas dit que nous consacrons nos vies à Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu attend du coup de nous en retour? Qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour que Dieu ne soit pas continuellement ici dans une jalousie qui provoque ici une colère ou autre chose? Vous avez une idée? Alors il y a eu la réponse ce matin avec le don, c'est le zèle. Être zélé. C'est quoi le zèle pour le Seigneur? Alors, je vous lis un passage. C'est un passage, moi, qui m'a beaucoup marqué, qui m'a profondément même fait changer ma vision de voir ma vie chrétienne. Et c'est un missionnaire anglais, un des premiers missionnaires anglais. Alors, j'ai pas son nom, qui va arriver en France, d'ailleurs, et dans l'Europe du Sud, qui va définir ce que c'est le zèle chrétien. Il va dire ceci. Un homme zélé est avant tout l'homme d'une seule idée. Ce n'est pas assez de dire qu'il est plein d'ardeur, empressé, fidèle, profond, sincère, fervent. Ce n'est pas assez. Un homme zélé, il n'a qu'une idée en tête. Il ne vit que pour une seule idée, il n'est absorbé que par une idée. Et cette idée, c'est de plaire à Dieu. L'homme zélé ne se soucie pas de vivre ou de mourir, d'être riche ou pauvre, de plaire ou de déplaire aux hommes, de passer pour sage ou fou, d'être traité avec honneur ou avec mépris. Il ne brûle que pour une seule idée. Et cette idée, c'est de plaire à Dieu et de travailler à l'avancement de son règne glorieux. Qu'il se consume lui-même dans ce feu, peu lui importe. Il est heureux, il sait que telle une lampe, il est fait pour brûler. Et s'il se consume dans ce feu, il ne fait qu'accomplir l'œuvre que Dieu lui a donnée à faire. S'il ne peut prêcher, travailler ou donner de son argent, il pourra pleurer, soupirer et prier. S'il ne peut combattre dans la vallée avec Josué, il luttera avec Moïse, Aaron et Hur sur la colline. S'il se trouve empêché de travailler lui-même pour son maître, il ne laissera pas de repos au Seigneur avant que la relève ne soit assurée et le travail accompli. Voilà ce que j'entends lorsque je parle de zèle chrétien. Cet homme-là, il a vécu ce qu'il a dit, puisqu'il a ouvert plein d'églises à travers l'Europe, jusqu'à la fin. Le zèle chrétien. Ce zèle-là, on va le retrouver dans la Bible. C'est Jésus qui va dire ceci. Après qu'il va chasser les marchands du temple, le zèle de ta maison me dévore. Paul, l'apôtre Paul, qui a écrit le Nouveau Testament, tout ça, il fait plein de choses, Paul, qui va dire ceci, « Je ne fais pour moi aucun cas de ma vie. » Comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, voilà tout ce qui compte. Un homme zélé. Alors pour conclure, la jalousie de Dieu exige de nous une relation exclusive. Un amour exclusif et Dieu ne veut nous partager avec personne et avec qui que ce soit dans notre vie. C'est parce qu'il nous aime d'un amour immense qu'il est logiquement jaloux. Une jalousie ici positive. Et il veut nous partager avec rien d'autre. Le véritable amour, il donne tout. Et Dieu s'est donné complètement pour nous. Ça, on le sait. Et on sait que du coup, l'amour se donne. Mais il demande aussi tout. Ça, on le sait moins. L'amour de Dieu, ce n'est pas juste « Seigneur, tu es à moi ». Mais aussi, je suis à toi. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout ce que je possède, tout, strictement tout, est à toi. C'est ça, vivre un amour avec le Seigneur. C'est pas juste d'un côté. C'est de notre côté aussi. S'il n'y a pas, c'est qu'on a un amour dysfonctionnel. Et Dieu ici, dans sa jalousie, nous le rappellera. Parce que lui nous aime. Ce matin, est-ce que vous êtes capable de dire cela et de le vivre? C'est dur, hein? En préparant ce message, je me réalisais moi-même hein, que finalement, et c'est bien de se le rappeler, finalement, quelle est la place du Seigneur dans notre vie? Quelles sont les idoles qui prennent beaucoup de temps, beaucoup de place? Et est-ce que je passe vraiment du temps avec le Seigneur? Ou est-ce que le dimanche matin, parce que ça peut être ça le dimanche matin, hein, Dieu voit les cœurs. Mais dimanche matin, ça peut être un beau marché d'hypocrisie. On peut louer le Seigneur de manière sincère le dimanche matin, mais si la semaine on n'a rien, c'est de l'hypocrisie, mes frères et sœurs. Hein. C'est de l'hypocrisie pure et simple. Et Dieu est patient. Mais il y a un moment, il va nous rappeler, attends, mais c'est quoi cette histoire? Tu dis que tu m'aimes complètement? Bah écoute, on va voir alors. Il s'agit pour nous d'être authentiques. Dieu voit chacun de nos cœurs. Il s'agit pour nous, du coup, de le vivre. Et si on n'y arrive pas ou on a du mal, eh ben, il y a l'église qui est là. Des frères et sœurs, ensemble, c'est mieux. Et on peut s'encourager, on peut même faire des choses ensemble pour pouvoir ensemble connaître le Seigneur. Voilà ce que Dieu attend de nous. Et c'est ce qu'il attend quand il parle d'être bouillant pour lui, d'ailleurs, et non froid et tiède. Ce qu'il va reprocher, d'ailleurs, à l'église de Laodicée, dans Apocalypse. Que la jalousie de Dieu ce matin nous motive à être des disciples passionnés de lui. Et s'il vous arrive d'être débordé comme je le suis, ça nous arrive, on est tous débordés, on a chacun des choses à faire, c'est placer votre relation avec Dieu quotidienne, au centre et avant toute chose. Puis c'est vraiment important, le reste c'est secondaire. Est-ce que c'est Dieu qui prend trop de place dans mon emploi du temps? C'est ça la question. Et la réponse, elle est presque toujours négative. La réponse honnête à ces questions, c'est de faire le ménage dans notre vie. De débarrasser. D'enlever les idoles qui encombrent nos vies pour n'avoir qu'une relation exclusive avec le Seigneur. Amen. Voilà, je vais conclure avec ce verset dans Apocalypse, chapitre 3, verset 15 à 20. On peut aller à Apocalypse, chapitre 3, verset 15 à 20. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni bouillant, ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. Je suis devenu riche, je n'ai besoin de rien. Sans savoir que toi-même, tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille de m'acheter de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé. Et que la honte de ta nudité ne devienne pas manifeste, et un collier pour t'en oindre les yeux afin que tu vois. Et Dieu qui précise, tous ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Passionne-toi donc, change radicalement. Je me tiens à la porte, et ça on connaît, et je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Mais si quelqu'un entend quoi? Si quelqu'un entend finalement ici la jalousie du Seigneur, qui nous pousse à vivre à 100% avec lui. Amen. Recueillons-nous, courbons nos têtes, mes frères et sœurs, que Seigneur puisse nous aider ce matin.